Bienvenue dans cette nouvelle émission des Plantes Vagabondes, l'émission 100% nature de Radio G. Je suis Claudie, ingénieure paysagiste conseil, et j'ai le plaisir de vous accompagner durant la prochaine demi-heure pour découvrir la grande famille des graminées. Car comme tous les vendredis pairs à 13h, le tiers-lieu Le Plantis vous invite à partir en nature à la découverte de l'histoire, des légendes, du mode de vie et des usages des plantes sauvages. Pour m'accompagner dans cette émission, nous écouterons la chronique paysanne de Laura sur l'utilisation de la paille dans la construction, la chronique Nos voisins sauvages de Noël consacrée aux renards, et enfin la chronique Le bonheur est dans les simples de Karine qui nous fera découvrir les propriétés de la flouve odorante. En cette fin d'année proche du solstice, nous écouterons aussi le désormais incontournable micro-trottoir du marché de Léon à la ferme de la Casserie à Écuyer, qui répondra à cette nouvelle question: quelle plante symbolise le mieux pour vous la campagne? Un moment de partage qui témoigne de notre lien toujours vivace à notre environnement et à l'expression de la vie. Allez, il est temps de partir à la rencontre de cette famille exceptionnelle des graminées. Et comme le ciel n'est jamais aussi présent que dans les paysages ouverts de la steppe, c'est la stipe plumeuse ou stipa pennata qui nous guidera tout le long de cette émission. Je me nomme Stipa et j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui la grande famille des graminées, la cinquième en effectif avec 12 000 espèces au moins. Au Crétacé, il y a 140 millions d'années, les dinosaures dominaient la Terre et se nourrissaient de nos herbages. Gardiennes de la mémoire de cette vie foisonnante, nous recouvrons à l'heure actuelle un quart du globe terrestre. Pour ma part, j'habite dans les grands espaces herbacés au nom russe de steppe et dont on retrouve de vastes étendues en Asie centrale, en Argentine, en Amérique du Nord, en Australie, et en France, dans la réserve naturelle des Caussouls de Croc près de Arles. Ces espaces ouverts sans frontières ont permis l'essor d'un des plus célèbres axes commerciaux, né il y a 2000 ans, la route de la soie, animée par son cortège de récits et de légendes. Ces espaces herbeux, plus ou moins arides, offrent des paysages grandioses, à l'horizon infini, ouvert sur le ciel. Ici, la nuit dialogue avec les étoiles et les rafales de vent couchent nos épis. L'été, le soleil brûle nos feuillages qui renaissent à chaque pluie. De nombreux artistes se sont inspirés de ces paysages sauvages et insoumis. Pour vous donner un aperçu, je vous laisse écouter ce poème contemporain de Joseph Paul Schneider, connu pour ses poésies sensibles et engagées pour la nature. Le temps qui nous bouscule réveille parfois sous la tente un barbare qui dort mal sur son lit de mousse synthétique. Même dans nos prairies pacifiées, le galop des chevaux d'Asie soulève des vents de sable et d'étoiles. En cette steppe où tu t'éveilles, tu apprivoises des constellations, fruit de cette nocturne passion aux confins du sommeil et de l'écriture. L'aube qui se défroisse comme papier n'inscrit jamais qu'interrogation d'une histoire que tu poursuivras le jour, chemin faisant. Le soir, parfois autour des feux, nous hurlons comme loups à la lune, écriture de sable, écriture de vent, nos voix se perdent dans la steppe. À l'aube froide, nous plions déjà bagages, poursuivons sur l'asphalte le gibier des rêves au bout de nos galops aveugles. Paradis des herbivores de tout poil, de l'ancêtre mammouth aux chevaux de Przewalski, les derniers chevaux sauvages de la planète, il abrite aussi de nombreux oiseaux, comme l'aigle et l'outarde, ainsi que de nombreux rongeurs. Bien entendu, la présence d'herbivores attire de nombreux prédateurs carnivores, qui permettent la régulation des populations et évitent le surbâturage. En parlant de prédateurs, retrouvons Noël et sa chronique « Nos voisins sauvages » pour nous parler du renard.
Bonjour, c'est Noël, cueilleuse de plantes et animatrice nature à la Jaillivon, sous le nom de Nature et Simple. Alors aujourd'hui, c'est le second épisode de la chronique Nos voisins sauvages, une chronique qui me tient à cœur parce qu'elle remet de la lumière et de la vérité sur certains animaux qui habitent tout près de nous. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un mammifère que vous connaissez tous, le renard. Il vit tout près de nous, il vit dans les forêts, prairies, marais, cultures, villages et même les villes. Il fréquente les jardins, les parcs, les cimetières. Il est donc très adaptable. C'est un grand opportuniste et également dans son régime alimentaire. Il mange des insectes, des escargots, des oiseaux et leurs œufs, des baies, surtout des rongeurs, qui représentent souvent plus de 50% de la quantité de nourriture ingérée en ce qui concerne les rongeurs. Autant dire que c'est un grand allié pour nous dans nos campagnes, pour les agriculteurs et leur production, pour les jardiniers, voilà. Et pourtant, le renard est toujours classé comme ésode. Alors c'est quoi ésode ? C'est une espèce susceptible d'occasionner des dégâts. C'est ce qu'on appelait auparavant les nuisibles. Ce classement autorise sa chasse, son piégeage et même son déterrage sous certaines conditions. Pour justifier tout ça, sont souvent invoqués des arguments sanitaires comme la rage ou l'échinococose. Mais la rage a disparu de France depuis 1998 et l'échinococose reste une maladie rare dont la chaîne de transmission est complexe. Il me semble donc qu'il est important de garder à l'esprit que le renard est important dans les écosystèmes. Selon la LPO, il régule les populations de rongeurs, limitant ainsi les dégâts agricoles et la propagation de maladies comme la maladie de Lyme. Il agit également comme un agent sanitaire en éliminant les individus malades ou morts. Et il disperse les graines aussi, il participe à la régénération végétale. Ses services sont souvent ignorés, mais ils font du renard un allié précieux de la biodiversité. Alors changeons notre regard. Bon, alors comment mieux vivre à ses côtés ? Parce qu'il est vrai que parfois le renard fouille dans les poubelles, il visite les poulaillers, c'est indéniable. Mais il y a des mesures simples qui permettent de limiter ses déconvenues. Sécuriser les déchets dans les bâtiments, les espaces clos, éviter de laisser de la nourriture à l'extérieur. Et pour les poulaillers, vous pouvez clôturer les enclos avec un grillage adapté. Ça peut être par exemple un grillage de 1,80 m de hauteur avec des petites mailles. Vous pouvez replier le haut du grillage vers l'extérieur de sorte de former un angle de 30 degrés. Et vous pouvez aussi l'enterrer de biais vers l'extérieur aussi, avec une profondeur de 30 à 50 cm. Alors un point à garder en tête, une grosse pression de chasse sur le renard va engendrer une augmentation de la reproduction qui remplacera rapidement les individus tués. Il vaut mieux donc apprendre à vivre ensemble. Voilà, merci pour votre écoute, vivant parmi les vivants, et à bientôt pour une autre chronique.
En tant que stipa, je suis une plante représentative des steppes. D'autres cousines graminées se regroupent dans d'autres formations végétales comme les savanes ou la toundra. En France, de nombreuses espèces de ma famille composent les paysages herbacés emblématiques caractéristiques de vos campagnes que sont les prairies, les pelouses. Elles portent les noms poétiques de chien-dent, vulpin des prés, flouve odorante, fétuque, dactyle, brome, orge ou même pâturin. Notre morphologie très particulière de plantes herbacées, hormis peut-être les bambous qui sont plus ligneux, nous permet de nous adapter à des milieux très différents, tels les zones humides, les zones arides, les dunes ou encore les forêts. Notre système racinaire dispose d'un chevelu très dense et profond qui nous permet de résister à l'arrachement par le vent et de nous alimenter en eau lors des sécheresses. Grâce à nous, les sols s'enrichissent et se structurent. Nos racines limitent les phénomènes d'érosion du sol, un avantage précieux lorsque les pluies sont intenses. Notre végétation est formée de tiges creuses cylindriques, non ramifiées, appelées chaumes, sur lesquelles alternent des feuilles linéaires à nervures parallèles. Nos tiges ont la capacité de se multiplier et de se ramifier au sol, ce que vous appelez le talage. Grâce à cette technique, nous avons la capacité à recouvrir le sol et limiter ainsi son dessèchement. Par ailleurs, notre système végétatif participe à la dépollution des sols et notre végétation installée dans les fossés facilite la percolation de l'eau et son épuration. Un avantage précieux pour le cycle des rivières. Mes cousines Régra et Fétuc sont publicitées pour agrémenter vos jardins, parcs, terrains de sport ou terrains de golf. En outre, des stipas comme moi et d'autres cousines comme les miscanthus, molines ou pennisetum, aux feuillages gracieux, séduisent les amateurs de massifs plus sauvages et résilients. En Asie, les bambous servent à la construction de nombreux habitats et bâtiments. Nos chaumes et nos feuillages constituent de précieux matériaux de construction locaux et peu coûteux en énergie. Pour nous en dire plus, écoutons la chronique paysanne de Laura consacrée à ce sujet lors d'une séquence interview.
Alors, bonjour Mathieu.
Salut Laura.
On se retrouve aujourd'hui chez toi, sur ton lieu d'habitation, qui est aussi ton lieu de travail, là où tu fais du maraîchage. Et pour l'interview, on se retrouve aujourd'hui, donc justement dans ta cabane, qui a été construite par tes soins en terre paille. Et donc, qu'est-ce que tu peux nous dire donc sur la paille? Pourquoi ce choix donc pour ces constructions?
Ok. La paille. J'ai pas eu trop besoin de réfléchir parce que c'est un matériel auquel j'ai accès très facilement. Je suis installé sur une ferme laitière,
ouais.
La ferme du Bol d'Herbe, qui du coup il y a des vaches, donc il y a beaucoup de bottes de paille qui sont faites pour elles l'hiver, notamment pour les logettes, et que je leur ai acheté des bottes de paille pour me permettre de construire une cave et une maison. Petit dézoom, la paille, donc c'est un sous-produit de la culture céréalière. C'est la tige sèche qui reste après qu'on ait récolté le grain du blé ou de l'orge.
Donc le blé ou l'orge qui sert... On récolte une partie, enfin du coup le haut de la tige pour obtenir le blé, donc pour le pain et pour l'orge,
la bière
pour la
exemple.
Bière. Et donc il reste une tige, une paille,
ouais.
Et qui sert notamment à nourrir les bêtes et toi, mais pas que.
Et du coup. Parce que aujourd'hui, on a un accès à cette matière facilité par la mécanisation. Si on rembobine à nos grands-parents, c'était une matière qui était très précieuse. On l'a gardée précieusement parce qu'elle avait demandé beaucoup d'énergie, beaucoup de bras, beaucoup de temps, et que du coup, il l'a gardée précieusement pour leurs bêtes l'hiver. Alors qu'aujourd'hui, on peut avoir facilement beaucoup de paille avec
grâce à la mécanisation,
grâce à l'énergie. Ouais. Fossile qui nous permet d'aller très vite, des fois trop vite.
Donc cas, vite. Là, ce que j'entends, c'est qu'en fait, oui, donc dans ta ferme, tu as accès à cette paille et tu as fait le choix ici, donc pour ton habitation, mais également pour ton travail, de te construire. Donc là, on se retrouve dans une cabane qui doit faire à peu près 30 mètres carrés, qui a été construite avec de la paille et avec la terre, essentiellement de la terre que tu as trouvée ici, donc sur place, ta terre qui est donc argileuse.
Mmh.
Et tu as... Donc peut-être que tu peux nous raconter un petit peu comment s'est passée la construction de ces différentes...
Ouais, carrément. Alors du coup, moi je suis arrivé en caravane, et puis le confort d'une caravane était sur le temps long pas énorme. Donc je me suis construit une cabane autour de ma caravane. J'ai donc construit une structure bois, et dans laquelle je suis venu monter des murs en terre paille. L'avantage de la paille, c'est qu'en fait elle se tient toute seule, vu que c'est assez rigide. Quand on la mélange à de la terre, elle va permettre que ça se tienne, que ça ne s'écrase pas ou ça ne s'affaisse pas comme une bouse. Ça a une structure rigide.
Une structure. Donc là, en fait, ouais, quand tu fais une construction de terre paille, c'est de la terre, de l'eau et de la paille.
Ouais.
Et tu peux construire des murs avec ça, avec bien sûr une ossature bois pour.
Ouais, c'est ça. Et puis une facilité d'utilisation qui est assez géniale, puisque il y a pas besoin de, on n'a pas besoin de se protéger de la paille ou de la terre.
Mmh.
Ça permet des chantiers plutôt fun, plutôt sympa.
Oui, oui.
Et donc au niveau pourquoi la paille quand même, c'est que pour une habitation ou pour une cave, l'intérêt c'est d'avoir une certaine isolation. On va avoir la terre pour l'inertie et la paille pour l'isolation, parce qu'en fait la paille elle est constituée de plein de microtubes qui vont enfermer beaucoup d'air, même quand on le malaxe avec de la terre. Mm-hmm. La paille elle va garder sa capacité à enfermer beaucoup d'air, donc quand on enferme de l'air on isole.
Ouais.
Donc ça a été la phase, enfin le le matériel le plus évident, moi, ici, pour construire à moindre coût, puisque c'est vraiment économique. Un ballot de 500 kilos, j'ai dû le payer 20 euros, donc on est vraiment sur quelque chose de très peu cher. Mais, bien sûr, avec un temps disponible, il faut y consacrer du temps, et c'est cool, quoi. Avec plaisir, j'ai consacré du temps à utiliser de la paille au lieu d'aller chercher une ressource qui n'était pas à ma portée.
Pour ta cave, par contre, tu as utilisé une autre technique, si j'ai bien compris, c'est que tu as décaissé une partie donc sous ton hangar, et tu as empilé des bottes de paille, et ces bottes de paille, donc des bottes de paille bien comprimées, il me semble, et sur ces bottes de paille, tu es venu faire un enduit, en fait, terre-paille.
Enduit terre.
Ok.
Et le but du jeu, moi, c'est de la cave, c'était vraiment un endroit que je voulais le plus isolé possible. Mmh. Bon, puis après, c'était aussi une phase d'expérimentation, mais en tout cas, là, c'est des ballots, donc c'est des murs de 40 de large. Donc j'enferme beaucoup d'air, et après je viens juste plaquer de la terre pour fermer et définir la chose, mais ça m'a permis d'isoler quelque chose sans plastique, juste avec les ressources locales,
ici, ouais, ouais. Même ouais. De la ferme, directement. Voilà. Eh ben, merci beaucoup Mathieu pour cette interview très intéressante, donc l'utilisation de la paille et ses usages que tu as pu expérimenter.
Merci.
C'est ton lieu d'habitation. Et...
Merci Laura, vive la paille, vive la terre.
Au revoir, merci pour
Salut,
votre écoute.
Il est temps de faire une pause en chanson avec Rosalía et son titre Mundo Nuevo, tiré de son nouvel album résolument féminin et mystique. Dans l'émission Les Plantes Vagabondes, l'émission 100% nature de Radio G sur 101.5 FM, et nous partons à la découverte des graminées en compagnie de Stipa, la reine des steppes. Après avoir évoqué la puissance de nos racines et la robustesse de notre végétation, je voulais aussi partager avec vous ce qui est à l'origine du nom même de notre famille, à savoir la production de graines riches en amidon. Lorsque nous arrivons à la puberté, nous déployons de magnifiques inflorescences en épillés qui donneront naissance à des fruits secs sous forme de grains. Plante primitive et ancestrale, nous sommes nés à une époque sans butineur. Aussi avons-nous utilisé le meilleur moyen disponible pour épandre nos semences, le vent. Nous avons tissé un lien très étroit avec de nombreux oiseaux granivores, leur assurant subsistance et abri pendant les périodes hivernales. De la même façon, les humains ont vite appris à nous utiliser au fil de leur histoire. Pour en témoigner, retrouvons la chronique de Karine. Le bonheur est dans les simples pour nous parler des propriétés d'une de mes cousines. Je vous laisse la découvrir.
Bonjour, je m'appelle Karine Lemaitre, je suis agricultrice et je cultive des plantes médicinales à chef. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une plante de la famille des graminées. Voici quelques indications pour vous faire deviner de laquelle il s'agit. Mon premier est utilisé par un grand chef suisse en cuisine. Mon second aide à des troubles de santé. Et mon troisième sent la vanille. Est-ce que vous l'aurez deviné, c'est la flouve odorante. C'est une petite plante de la famille des graminées, ou pour les plus pointus, cette famille s'appelle aussi les poacées. C'est une petite plante qui vaut le détour. Elle offrira une belle odeur de vanille, douce et si puissante à la fois. On la retrouve très communément dans les prairies et les pâturages, et selon un centre de recherche suisse, c'est une plante qui tapisserait 90% de notre territoire. Autant dire que chacun de nous s'est au moins une fois assis sur de la flouve odorante, ou bien l'aurait piétinée, ou encore, peut-être qu'un petit enfant l'aurait prise dans les mains en train de courir dans un champ. C'est une plante tellement commune qu'elle peut vite devenir envahissante. Très peu connue pour une plante commune, même chez nous paysans herboristes, elle a des vertus médicinales intéressantes et je vais vous en parler. Consommée en interne, la flouve odorante stimule la circulation sanguine, surtout au niveau des veines et des capillaires sanguins. C'est une plante aussi anti-inflammatoire, sédative et rappelle le mélilot et la spérule dans ses propriétés thérapeutiques. Ça, c'est du fait qu'elles partagent toutes les trois une molécule commune qui s'appelle la coumarine. Cette coumarine donne à ces plantes une saveur de vanille. La flouve odorante fleurit au printemps, avant les autres graminées et avant toutes les autres herbes. Pour sa cueillette, je vous conseille de ne pas attendre. Son inflorescence a un bel aspect hérissé et sa floraison se teinte de pourpre. Cette odeur de coumarine est un délice. En nature, lorsque vous saurez la reconnaître, avec précaution, j'insiste bien, coupez donc un brin, portez-le à votre bouche, mâchouillez et vous sentirez un goût de vanille venir flatter vos papilles. En Suisse, le chef Carlo Crissi la sèche pour la réduire en poudre et aromatiser sa cuisine. Donc vous verrez bien que les idées ne manquent pas. On peut en mettre dans les sauces, les laitages ou pour fumer un travers de porc. Enfin, pour terminer sur la flouve odorante, il faut une attention particulière pour ne pas la consommer lorsque ses brins sont moisis. Elle peut causer des dommages hémorragiques, même s'il n'a jamais eu de cas rapporté. Pour moi, la flouve odorante est un petit trésor à aller débusquer dans les herbes de toute urgence au printemps. Je vous dis à très bientôt dans une chronique des plantes vagabondes. C'était Karine.
Notre grande famille de graminées a la particularité de posséder des graines riches en amidon. Depuis au moins 10 000 ans, les humains ont domestiqué certaines d'entre nous pour produire farine, semoule ou gruau. Ainsi, la culture du blé, du riz, de l'orge, du sorgho, du seigle ou encore du controversé maïs fournissent de précieuses calories à vos populations, toujours plus nombreuses et voraces. L'essor même de vos civilisations repose sur la sélection et la manipulation de nombreuses graminées. Outre les aliments, les humains confectionnent des boissons par la fermentation de grains comme l'orge pour la bière et le whisky, le blé pour certaines vodkas, le maïs pour le bourbon ou encore le riz pour le saké. Du maïs ou du thé, ils fabriquent de l'huile. Vos véhicules motorisés roulent au biogazole à base de maïs et au bioéthanol issu de la canne à sucre. Pour revenir à l'alimentation, je vous invite à conclure cette émission dans la joie avec le micro-trottoir du marché de Léon, anagramme de Noël, qui se déroule tous les ans à la ferme de la Casserie à Écuyer, bien entendu. Cette année, il fallait répondre à la question suivante. Quelle plante symbolise le mieux pour vous la campagne ? Un moment de partage qui témoigne de notre lien toujours vivace à notre environnement et à l'expression de la vie.
C'est la plante qui, pour moi, m'évoque vraiment la campagne, le monde rural. C'est la carotte sauvage ou la ciguë. En fait, on en trouve partout. Et puis, c'est vraiment ces petites ombellifères, là, magnifiques. Ouais, c'est ça pour moi.
Et vous ?
Pour moi, je dirais plutôt l'ortie. On en trouve partout. Et ça a mille bienfaits. J'adore les faire en soupe l'hiver ou au potager pour enrichir les plantes. Enfin, c'est pour moi, ouais, l'ortie, c'est pas une mauvaise plante, c'est une plante magnifique, pleine de vertus. Et c'est, voilà, c'est la campagne.
Des arbres, hein.
Il y a un arbre,
le seul pleureur de chef qui a été coupé, par exemple.
Claudie, à ma
place. Je vais pas faire d'être plus beau.
Ah, mais c'est sorti tout seul. Donc, a priori, t'aimes bien les seuls pleureurs.
Notamment celui de chef, il était magnifique, mais il va repousser, hein.
Le coquelicot. Et qu'est-ce qui t'a motivé pour choisir le coquelicot ?
Parfumé ou pas ?
Je trouve que c'est une plante déjà qui, oui, qu'on voit vraiment dans les endroits plus sauvages, plus nature. Et déjà qui attire l'œil, voilà, ça me fait penser à vraiment à la campagne dans toute sa splendeur.
Ouais.
Maintenant, j'ai plus 40 ans.
Alors pour moi, la plante qui incarne la campagne, c'est plutôt le cyclamène, parce que à côté de chez mes parents, il y a beaucoup de petits cyclamènes qui poussent dans le sous-bois, et c'est vraiment très joli. Donc pour moi, c'est un souvenir d'enfance.
Que le personnage qu'on trouve dans les fossés, etc., et la fleur qui sort l'hiver, tu sais, qui perce la neige, etc., donc ça représente bien le monde rural. C'est-à-dire, malgré la rudesse de la vie, on se bat, on s'en sort, on relève la tête, on est toujours là.
Oh, magnifique, magnifique.
Ah là là. Alors moi, la plante, en fait, c'est une plante de mon enfance, c'est le plantain. Le plantain avec lequel on soignait les piqûres d'ortie ou d'abeilles. On soignait tout avec. Ma grand-mère soignait tout avec du plantain. Voilà, et donc j'adore trouver du plantain.
Plutôt les arbres.
Et alors un arbre en particulier ?
Non, pas particulier, un chêne ou je sais pas, enfin, ce genre de. Un arbre en forêt, quoi, de préférence. Voilà. Une multitude d'arbres, quoi.
Ah, ça c'est chouette.
Le pissenlit.
Pourquoi
le pissenlit ? Parce que la couleur jaune du soleil, on peut manger ses feuilles et ça sort bien de la terre. Et il faut se mettre à quatre pattes.
Et moi, c'est le coquelicot. Le coquelicot, parce que ça me rappelle mon adolescence. Parce qu'en fait, à l'époque, on en trouvait dans les champs de blé avec le bleuet. Mais le coquelicot, parce que quand j'étais encore plus jeune, on prenait les boutons du coquelicot et on enlevait la bogue et on dépliait les pétales et on tournait dans les doigts et on disait que c'était une petite danseuse. Voilà.
Très beau.
Très poétique.
Moi, je voulais dire coquelicot. Eh ben, pourquoi toi le coquelicot ? Mais t'as le droit de choisir le coquelicot. Hein.
Parce que c'est ma fleur préférée. C'est rouge. J'aime bien ce rouge flamboyant et cette fleur légère. Et sinon, je me dis, bon, si Hélène a pris le coquelicot, moi, une plante qui me sert presque quand j'accueille à la ferme, c'est le plantain, parce qu'il y a beaucoup d'orties et souvent, très souvent, on cherche le plantain pour se soulager des orties, des piqûres. On en trouve partout sur les chemins.
Cette émission est terminée. N'hésitez pas à écouter, réécouter sans limite tous nos podcasts de l'émission Les Plantes Vagabondes sur radio-g.fr. Toute l'équipe du Plantis vous souhaite de joyeuses fêtes et vous donne rendez-vous en janvier en 2026 sur 101.5 FM pour parler plantes invasives. À bientôt et portez-vous bien.